C'est une joie pour moi de pouvoir être ici. Merci à Pasteur Ben, Sophie pour l'accueil, pour la confiance. Et c'est particulier pour moi de prêcher ici parce que Ben et Sophie, c'est avec eux que j'ai débuté le ministère. C'est eux qui m'ont tout appris, le leadership, la prédication, tout ça. Puis je veux vous dire vraiment que je vous aime, vous êtes des amis, puis vous êtes précieux dans ma vie. Puis vraiment, Nouvelle Vie La Prairie, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Vous êtes vraiment bénis de les avoir comme pasteurs. Puis est-ce qu'on pourrait les souligner et les honorer ce matin? Vraiment. Et c'est Pasteur Ben qui m'a appris à prêcher. Donc si ce matin, c'est pas bon, c'est totalement de sa faute. C'est des blagues. C'est une joie pour moi de conclure la thématique Rêve de Dieu. Qui a été béni? Combien ont été bénis par cette thématique à date? Une thématique incroyable sur le rêve de Dieu. Parce que oui, on croit que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Amen. Chacun d'entre nous, qui que vous soyez dans ce lieu, peu importe votre âge, votre arrière-plan, votre couleur de peau, votre sexe, Dieu a un plan pour votre vie. Il a un rêve pour votre vie, pour vos relations, pour votre carrière, pour votre ministère. Et c'est comme Pasteur Ben a prêché dans les dernières semaines, ce rêve de Dieu pour nos vies, il n'est pas juste individuel, il est collectif. Il n'est pas juste à des fins juste individuelles pour que ce soit juste nous qui en profitions, mais pour qu'on puisse être une source de bénédiction pour les personnes qui sont autour de nous. Dieu nous appelle à être la lumière du monde, à briller en tant qu'individu, mais aussi à briller en tant qu'Église. Et moi, un des versets qui m'encourage le plus à vraiment rentrer dans ce que Dieu a pour nos vies, à marcher dans les voies de Dieu, c'est Éphésiens 2:10, qui nous dit... Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle promesse incroyable! Qui que tu sois dans ce lieu, Dieu a préparé des œuvres et des rêves qu'il a préparés d'avance pour toi afin que tu puisses les accomplir. Une promesse incroyable! Mais c'est une promesse qui est conditionnelle. Les choses que nous allons accomplir, le rêve de Dieu pour nos vies, est conditionnel aux décisions, aux choix que nous prenons. Et c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Les obstacles aux rêves de Dieu ». Les obstacles aux rêves de Dieu pour nos vies. Parce qu'il y a des choses, il y a des décisions qu'on peut prendre, des choix qu'on peut faire, qui peuvent littéralement freiner, voire même avorter le rêve de Dieu pour nos vies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va continuer à rester dans l'histoire de Joseph. Parce que ce que l'histoire de Joseph nous enseigne, c'est que entre le moment où Joseph a reçu le rêve de Dieu, la vision de Dieu pour sa vie, et le moment où il a accompli ce rêve-là, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Okay, vous connaissez l'histoire, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Je vais faire un rapide résumé pour ceux qui peut-être ont manqué les premières parties. Joseph, lorsqu'il était adolescent, il a reçu un rêve, une vision qu'un jour il allait être un gouverneur, qu'un jour il allait devenir un homme d'impact, de grande influence. Mais le moment où il reçoit ce rêve-là, cette vision paraît totalement folle. Tant il vit dans un contexte défavorable. Il a grandi dans une famille totalement dysfonctionnelle, avec des frères qui le maltraitaient totalement. Le livre de la Genèse, à un moment donné, nous montre même qu'à un moment donné, il le laisse pour mort et pour le vendre quelques jours plus tard comme esclave. Mais combien sont reconnaissants que le Dieu qui annonce des promesses, il est capable de les accomplir, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve. Et c'est ça que Joseph, et c'est ça qui se passe dans la vie de Joseph. Car ce même Joseph qui a été vendu comme esclave, on le retrouve quelques années plus tard, gouverneur d'une Égypte richissime, et il deviendra l'homme providentiel utilisé par Dieu pour sauver le peuple d'Israël de la famine. Ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir, peu importe tes circonstances. Mais dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui, Joseph est loin d'être un gouverneur. En fait, il vient juste d'être vendu comme esclave et il vient d'arriver dans la maison d'un homme qu'on appelle Potiphar. Il arrive dans sa maison, puis il sert comme esclave. Et la faveur de Dieu est tellement avec Joseph, Joseph excelle tellement dans son service que Potiphar le remarque. Il le remarque et il commence à lui donner de plus en plus de responsabilités, à un point tel qu'il a autant de responsabilités que Potiphar lui-même, jusqu'à ce que Joseph fasse face à un nouvel obstacle. Et cet obstacle nous est expliqué en Genèse 39 et c'est le suivant. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison qu'il m'a confiée et il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et même d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi !» Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Bienvenue à Nouvelle-Ville à Prairie ce matin. Pour la petite blague, comme ça a été dit, moi je suis pasteur et je travaille beaucoup avec les adolescents. Et un des arguments qu'on leur donne à chaque fois pour lire la Bible et l'Ancien Testament, c'est qu'on leur dit que dans l'Ancien Testament, il y a autant de rebondissements que dans leur série Netflix préférée. On a la preuve ce matin. Le premier obstacle que j'aimerais voir avec vous ce matin et qui nous empêche bien souvent de rentrer et d'accomplir le rêve de Dieu pour nos vies, c'est le compromis. Alors que Joseph sert avec fidélité, il fait face au compromis de compromettre son intégrité et son honnêteté devant Dieu. Et sur la route du rêve de Dieu pour nos vies, nous faisons tous face à des tentations, dans des domaines différents, à des degrés différents, mais tous ici, sans exception, on fait face à des tentations. Et c'est pour ça qu'il est hyper important et primordial de les identifier et de le comprendre, parce que nos réactions, nos réponses face à ces tentations vont déterminer les œuvres qu'on va accomplir et si on va marcher réellement et accomplir le rêve de Dieu pour nos vies. C'est pour ça qu'il est primordial pour nous ce matin d'identifier et de comprendre comment ces tentations fonctionnent. Parce que tant et aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat. Mais le meilleur moyen de remporter un combat, c'est de connaître la stratégie de l'adversaire. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et dans la Bible, il n'y a pas de meilleur livre que le livre de Jacques pour nous expliquer comment fonctionnent les tentations. Et le livre de Jacques nous dit ceci. Chacun est tenté, on est tous tentés ici, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu, met au monde le péché. Et le péché étant consommé, enfante la mort. Jacques ici nous explique comment fonctionne le péché. Puis, le mot péché, c'est un des mots les plus impopulaires au Québec, mais ça signifie tout simplement manquer la cible, s'écarter de la volonté parfaite et bonne que Dieu a pour nos vies, s'écarter du rêve de Dieu pour nos vies. Et Jacques ici explique comment fonctionne le péché, et pour ça, il utilise un mot comme amorcer, qui fait référence au domaine de la pêche. Est-ce qu'il y a des amateurs de pêche ici dans la salle, des gens qui aiment aller à la pêche? Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont des fans de pêche, ils y vont été comme hiver. Okay, moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ceux qui vont pêcher l'hiver. Moi, dès que je vois de la neige, de la glace dehors, il y a un signal qui s'envoie à mon cerveau qu'il faut que je reste à l'intérieur. Je pense que c'est mon côté africain. Mais je ne suis pas un expert de la pêche, pas du tout. Mais une chose que je sais de la pêche, c'est que pour pêcher un poisson, tu as besoin d'un appât. Un appât, c'est quoi? C'est quelque chose que le poisson aime. Ça peut être des vers, des crustacés, des mollusques. J'ai fait mes recherches, ok? Ça peut être toutes sortes de choses. Et tout dépendant des poissons que tu vas attirer, tu vas utiliser différents appâts. Mais par définition, un appât, c'est quelque chose que le poisson aime qui va l'attirer. Et les tentations dans nos vies, c'est exactement le même principe. On n'est jamais tenté par quelque chose qu'on n'aime pas. C'est toujours par quelque chose qui nous attire, qui nous tente. On a l'impression que ça va nous satisfaire. Et j'aime énormément la citation que le pasteur Timothy Keller dit justement sur comment commence le péché et comment fonctionnent les tentations. Il dit ceci. « La Bible enseigne que le péché commence toujours par quelque chose que vous ajoutez à Jésus-Christ comme exigence pour être heureux. » Quelque chose que vous devez absolument avoir. Le péché commence toujours par la pensée de « Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle, mais si je n'ai pas telle chose ou telle chose dans ma vie, je ne serai pas comblé, je ne serai pas heureux, je ne serai pas satisfait. Oui, Dieu, il est bon, Dieu, il est gentil, Dieu, il est fidèle, je viens à l'église, mais moi, là, ce qui va vraiment me combler, là, c'est une carrière réussie. Et si pour ça, je dois compromettre mon témoignage chrétien, qu'il en soit ainsi. » Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle, mais moi, j'ai des pulsions à satisfaire. Et si pour ça, je dois aller en dehors du cadre du mariage, qu'il en soit ainsi. Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle, Dieu, il est juste. Mais moi, ce que je veux là, c'est être accepté par les personnes autour de moi, c'est être populaire. Et si pour ça, je dois taire le fait que je suis chrétien pour éviter des moqueries ou des critiques, qu'il en soit ainsi. La tentation commence toujours par la pensée que quelque chose d'autre que Dieu peut me combler. Et c'est là que le compromis commence. Pour revenir à mon image de poisson, lorsque le poisson voit l'appât, sa réaction, ce n'est pas de se jeter directement dessus. Il analyse, puis il y va tout doucement, parce qu'il a peur d'effrayer ce qu'il croit être sa proie. Donc il y va tout doucement, il s'approche, et généralement il tourne autour de l'appât pour voir quand est-ce que ça va être le bon moment pour attaquer. Mais la réalité, c'est que le pêcheur, lorsqu'il voit un poisson tourner autour de l'appât, il sait que c'est terminé pour le poisson. Il sait que c'est fini, il sait que c'est qu'une question de temps avant que le poisson morde à l'hameçon. Et c'est exactement pareil pour nos tentations. Les chutes morales dans lesquelles on tombe n'arrivent jamais du jour au lendemain comme ça. Elles ont toutes et chacune été préparées par des petites décisions, par des petits compromis. Et c'est ce qui se passe dans notre texte. Dans le texte, l'acte de la femme de Potiphar a été préparé. Le texte nous dit que, on voit vraiment que c'est graduel. Le texte nous dit que ça commence par des propositions. Et à un moment donné, elle a tellement nourri sa tentation avec des compromis qu'elle arrive à un moment donné où ça devient juste hors de contrôle. Elle la grippe par son vêtement et elle lui ordonne de coucher avec elle. Ça commence par des pensées. Ça continue par des propositions, et là, ça finit par un ordre. Et puis le texte, là, dans l'hébreu, là, la signification la plus profonde est encore plus explicite que la traduction française. Je ne pourrais même pas la répéter sur un stage ce matin, et ça témoigne littéralement d'une femme qui est contrôlée par ses pulsions. Les chutes morales dans lesquelles on tombe n'arrivent jamais du jour au lendemain. Elles ont toutes été préparées par des petites décisions, par des petits compromis. Ce n'est pas tous les convoitises qui ont fini en adultère, mais tous les adultères ont commencé par de la convoitise. Et on est chacun tenté dans des domaines différents qui sont propres à chacun. Mais notre réaction face à nos tentations va être déterminante. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de dire non lorsqu'on a dit une fois oui ou peut-être. Et ce que tu tolères dans ta vie aujourd'hui risque de devenir ton quotidien demain. Et c'est pour ça que notre réaction face à nos tentations est déterminante. Elle est déterminante. Lorsqu'on arrive, et si je reviens à mon image de poisson, lorsque le poisson voit la paille, et la seule chose qu'il voit là, c'est la chose qui va le satisfaire. C'est la chose qui va le combler. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que l'hameçon, l'appât est suspendu à un fil. Qui lui-même est tenu par un pêcheur et par une canne à pêche. Et ce qu'il voit pas, c'est que la seule chose qu'il voit pas, c'est que alors qu'il s'apprête à mordre à l'hameçon, il est sur le point de perdre sa liberté et ultimement sa vie. Et dans nos combats, c'est ça qui arrive. Dans nos tentations, la seule chose qu'on voit, c'est l'aspect positif, l'aspect que ça va me combler, ça va tellement me satisfaire. Mais on voit pas toutes les conséquences qui vont être exposées derrière, toute la destruction, le vide que ça va amener. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si nos plus grandes défaites sont toujours préparées par des petits compromis, nos victoires, quant à elles, sont toujours préparées par de simples gestes d'obéissance dans notre quotidien à Dieu. Parce que lorsque dans ce texte-là, Joseph arrive et que la femme de Potiphar arrive devant lui, si elle avait déjà perdu la bataille à cause de tous les petits compromis qu'elle avait fait dans sa vie, Joseph, lui, il avait déjà remporté la victoire à cause de la place à Dieu qu'il laissait dans son quotidien. Et ça, c'est la réalité. Quelqu'un a dit ceci, « Vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. » Ne sous-estimez pas le simple geste d'obéissance à Dieu dans votre quotidien, parce que ce sont eux qui déterminent votre caractère et ultimement votre destinée. Il faut vraiment comprendre à quel point l'obéissance à Dieu dans les choses ordinaires produit un fruit extraordinaire et nous permet de remporter des victoires qu'on n'aurait jamais cru être possibles, qu'on n'aurait jamais pu imaginer même dans nos plus grands rêves remporter. Mais tout ça commence par une obéissance dans les choses, dans les petites choses que Dieu nous demande. Comme ça a été dit, moi, ça fait une dizaine d'années à peu près que je suis à Nouvelle Vie. Puis je m'en souviendrai toute ma vie les premières fois où je suis arrivé. Les premières réunions auxquelles j'ai assisté, à quel point j'étais émerveillé, à quel point je trouvais ça vraiment extraordinaire de voir la qualité de la louange, de voir tout ce qui était fait au niveau humanitaire, la qualité de la prédication, les lumières, tout ce qui se passait dans les départements NV Junior, les ados, les couples, les célibataires, les aînés. Et ce matin, j'aimerais justement souligner chacun des bénévoles qui s'impliquent. Vous faites réellement briller Nouvelle Vie dans toute la francophonie. Et est-ce qu'on pourrait les applaudir et les souligner? Des hommes et des femmes qui sacrifient jour après jour. Vous faites briller Nouvelle Vie, vous faites briller l'Église. Et vraiment, je me souviens, j'étais impressionné par à quel point je trouvais ça extraordinaire. Mais puis j'ai commencé à m'impliquer. Puis quand ça fait une dizaine d'années que t'es impliqué à l'Église et que même tu commences à servir, moi ça fait même plusieurs années que je travaille à temps plein à Nouvelle Vie, tu commences à comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Tu commences à voir le behind the scene, un peu de comment, ok, cette Nouvelle Vie qui est grosse machine qui est extraordinaire, un fruit incroyable, tu commences à avoir le behind the scene et tu réalises qu'en fait, tout ce fruit-là, il est oui dû à la grâce et à la faveur imméritée de Dieu sur cette église, mais il est aussi le résultat de milliers de gestes simples et ordinaires par des gens ordinaires faits avec constance et avec régularité. Lorsqu'on voit la louange, le worship qui est juste incroyable à chaque fois qu'il nous emmène dans la présence de Dieu, c'est ni plus ni moins des hommes et des femmes qui pratiquent leur chant pendant des heures et des heures, qui viennent 2-3 heures avant la réunion quand nous, on est encore en train de dormir et eux, ils sont en train de pratiquer leur chant. lorsqu'on voit les réunions qui se passent super bien du début à la fin, c'est des hommes et des femmes qui font des meetings logistiques pour tout bien préparer, qui ont des checklists, des to-do lists pour s'assurer que tout est carré. Lorsqu'on voit le fruit incroyable qu'il y a dans le ministère des aînés, c'est juste incroyable les témoignages qu'on reçoit. C'est des hommes et des femmes qui appellent chaque semaine nos aînés et qui, des fois, ils tombent sur des répondeurs. Le fruit qu'on a incroyable aux ados, de dire, man, c'est incroyable, l'année dernière, on a baptisé plus de 30 ados. Plus de 30 ados. Puis ça, c'est dû à la grâce de Dieu. Mais c'est aussi des hommes et des femmes qui se connectent chaque semaine sur Zoom avec des ados qui, parfois, ne veulent même pas ouvrir leur caméra. Okay, c'est le pasteur ado qui vide son sac. Et de dire, quand tu prends ces gestes-là de manière isolée, il n'y a rien de plus banal que ça. Il n'y a rien de plus ordinaire que ça. Mais mis ensemble, fait avec constance, avec régularité et associés tous ensemble dans la même direction, ça donne nouvelle vie. Ça donne une église sur 7 sites qui porte du fruit dans la francophonie, qui a baptisé des centaines de personnes, qui a impacté des milliers et des milliers de vies. Ce matin, ne sous-estime pas les simples gestes d'obéissance dans ta vie, parce que ce sont eux qui forgent ton caractère et ta destinée. Est-ce que je peux entendre un amen la prairie ce matin? Si les tentations auxquelles nous faisons face peuvent nous façonner pour le pire, elles peuvent également nous façonner pour le meilleur. Mais pour ça, nous devons avoir une juste vision de qui Dieu est. Et c'est pour ça que j'arrive avec mon deuxième point, le deuxième obstacle qui bien souvent nous empêche de surmonter les tentations auxquelles on fait face, et c'est qu'on a une mauvaise perception de qui Dieu est. L'auteur Dane Ortlund, dans son excellent ouvrage « Doux et humble de cœur », je vous le recommande vraiment, c'est un des livres qui m'a le plus impacté en ce début d'année, dans son livre, il dira ceci. Il se peut que la plus grande victoire de l'ennemi sur votre vie actuelle ne soit pas le péché auquel vous cédez souvent, mais les pensées sombres que vous entretenez au sujet du cœur de Dieu, qui vous y pousse en premier lieu et qui vous garde tiède à son égard. En d'autres mots, ce n'est pas que nous aimons trop le péché, c'est que nous n'aimons pas assez Dieu parce que nous avons une vision erronée de qui il est. Il faut savoir une chose, c'est que la Bible nous enseigne que nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est qu'on est libre de prendre notre décision, de choisir d'aller à droite si on veut aller à droite, de choisir d'aller à gauche si on veut aller à gauche. En gros, ça veut dire qu'on fait toujours ce qu'on désire le plus. Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, non Thomas, là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Je te suivais jusque-là, mais là, je fais vraiment pas ce que je veux le plus. Moi, je suis dans une job que je déteste, ok? Et si je faisais vraiment ce que je voulais, le matin, j'irais pas travailler et je resterais dans mon lit. Je devrais te dire que même toi qui penses comme ça, tu fais toujours ce que tu veux le plus. Parce que ce que tu veux encore plus que dormir, c'est pouvoir continuer à payer tes factures, manger et payer le prix de l'essence qui devient affreusement cher. On fait toujours ce qu'on veut le plus. Et cette réalité, cette vérité-là, vous pouvez l'appliquer à toutes vos décisions. Même une personne qui me dirait, ok Thomas, moi ça fait plus d'un mois que je suis à la diète et que je m'empêche de manger des desserts. La seule chose que je veux en ce moment, c'est manger du chocolat. Ok, je mange des brocolis depuis un mois, j'en peux plus. Moi, ce que je veux en ce moment, c'est manger du chocolat. Et crois-moi que si je faisais vraiment ce que je voulais, en ce moment, je me mettrais un bon gâteau et je le mangerais d'un coup. Même là, ce que tu désires le plus encore que le chocolat, c'est être en santé et c'est perdre du poids. À un point tel que tu es prêt à sacrifier ta passion pour le chocolat pour atteindre cet objectif. On fait toujours ce qu'on désire le plus. Ce qui fait que le remède et la solution pour ne pas succomber à la tentation, ce n'est pas d'essayer de supprimer nos mauvais désirs, ces peines perdues, mais c'est de les remplacer par un désir encore plus grand de plaire à Dieu, de lui être agréable, de l'honorer. Et c'est ça qui a permis, oui, on peut applaudir. C'est ça qui a permis à Joseph de surmonter cette tentation. Alors que la femme de Potiphar vient jour après jour le voir, le tenter, voici sa réponse. « Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Son désir de plaire à Dieu était plus grand que ses pulsions, ou même de la peur qu'il pouvait avoir de la réaction de la femme de Potiphar face à un potentiel refus de sa part. La solution pour marcher dans la sainteté et dans l'obéissance, ce n'est pas de chercher à supprimer nos mauvais désirs, mais de les remplacer par un désir encore plus grand de plaire à Dieu. Mais pour ça, nous devons avoir une juste vision de qui il est. Parce que ce qu'il y a de plus important encore que nos actes, que les décisions qu'on prend, c'est la vision qu'on a de Dieu. C'est nos croyances à son égard. Tout à l'heure, quand je vous ai lu la citation que nos actions deviennent nos habitudes, nos habitudes deviennent nos valeurs et qu'ultimement deviennent notre destinée, j'ai fait exprès de couper la première partie de la citation pour la laisser pour ce point-là. Car la première partie de cette phrase nous montre que la source de tout, c'est nos croyances. C'est vos croyances qui deviennent vos pensées deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Quelle est ta vision de Dieu ce matin? Est-ce que tu le vois comme un Dieu qui t'aime et qui veut le meilleur pour toi? Ou est-ce que tu le vois comme un Dieu qui t'aime, mais si tu es honnête avec toi 30 secondes là, il t'empêche vraiment d'être libre, il t'empêche de vraiment profiter de la vie parce qu'il y a des commandements à respecter. Quelle est ta vision de Dieu ce matin? La perception qu'on a de Dieu, ce que l'on croit à son sujet, est primordiale parce que c'est ça qui va déterminer les décisions qu'on va prendre et les choix qu'on va vivre. Et c'est pour ça que ce matin, si tu es là pour les premières fois, que tu ne connais pas encore Jésus, mon but pour moi et mon objectif ce matin, ce n'est pas de te faire adopter certains comportements moraux pour... Non. C'est que tu rencontres Dieu. Parce qu'une fois que tu le rencontres, tu réalises à quel point il t'aime. Et la seule chose que tu as envie, c'est de vivre une vie qui lui plaît, qui lui est agréable. Parce que tu réalises que tous les commandements qu'il te donne, il te les donne par amour, parce qu'il veut le meilleur pour toi. Et c'est seulement en marchant dans ses voies que tu vas accomplir son rêve pour sa vie. Mais je crois qu'il est possible de marcher avec le Seigneur pendant des années et des années et quand même d'avoir une vision erronée de qui il est. De prendre sa sainteté comme de la sévérité. De croire que parce qu'il est saint et parfait et que nous ne le sommes pas, que sa colère est prête à bondir et à jaillir sur nous au moindre écart de notre part. Je crois qu'il est vraiment possible pour nous de sous-estimer la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. De croire que face à nos offenses, Dieu réfléchit comme un homme. Parce qu'on va être honnête 30 secondes en ce moment-là. Nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, notre réaction la plus naturelle face à l'offense, ce n'est pas le pardon. C'est pas l'amour. Ce qui nous vient naturellement là, c'est la frustration, c'est la colère, c'est l'impatience, c'est la rancune. C'est pour ça que Hébreux 10, 24 nous dira « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » L'auteur aux Hébreux savait très bien qu'on n'a pas besoin de s'exciter à la colère et à la frustration, on le fait très bien tout seul tout ça. Ça nous vient naturellement, on n'a pas besoin de se discipliner. Par contre, on a besoin de se discipliner à pardonner, à aimer, à être patient. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Dieu, c'est totalement l'inverse. De Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez aucun verset qui nous dit qu'on a besoin d'exciter l'amour de Dieu. En fait, la seule chose qu'on a besoin d'exciter chez Dieu, c'est sa colère. Parce que sa parole nous dit que contrairement à nous, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Ce qui vient le plus naturellement à Dieu face à l'offense, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la frustration, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le pardon, c'est la grâce. Et ça change tout. Ça change totalement. Il est totalement différent de nous. Je vais vulgariser là, si tu prends Dieu off guard, qui n'est pas sur ses gardes, ce qui va jaillir de lui, c'est de la grâce, c'est de l'amour, c'est du pardon. Ce matin, il faut que tu réalises que Dieu t'aime beaucoup plus que ce que tu crois. Dieu a beaucoup plus de patience envers toi que ce que tu crois. J'irai même plus loin. Dieu est beaucoup plus patient envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Ça, il faut que tu le réalises. Sa parole nous dit qu'il est lent à la colère, mais qu'il est riche en bonté. Et dans notre lutte contre le péché, il est primordial pour nous de faire la différence entre la voie de la condamnation et la voie de la conviction. La condamnation nous pousse à nous cacher de Dieu après nos fautes, alors que la conviction nous pousse à courir à lui. La condamnation te dit « Dieu ne veut plus de toi ». La conviction te dit « Dieu t'attend les bras grands ouverts ». La condamnation te dit « Tu as trop fauté ». Ça fait combien de temps que tu es dans ce péché-là? Ça fait combien de temps que tu restes toujours dans les mêmes patterns? Tu dis que tu vas arrêter, tu retombes. Tu demandes pardon à Dieu, tu retombes. Tu vois tout le tort que tu fais, tu vois toutes les personnes que tu as blessées. Tu tombes encore et encore. Dieu, il est tanné de toi. Dieu, il voit clair dans ton jeu. Il voit que tu es juste un hypocrite. La voix de la conviction te dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que lorsque Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi, il avait connaissance de tes péchés passés, présents et futurs. Et il a quand même décidé d'aller au bout parce que son amour pour toi est infiniment grand. Est-ce que je peux entendre un amen la prairie ce matin? L'amour de Dieu pour toi est infiniment grand. Ce matin, il faut que tu apprennes à réaliser que Dieu est beaucoup plus patient envers toi que tu ne penses. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il y en a, depuis que je suis en train de parler là, le Saint-Esprit est en train de mettre des convictions dans vos cœurs, de dire « Man, tu sais qu'en ce moment-là, t'as pas encore mordu à l'hameçon là, mais tu tournes autour. Dieu il t'appelle à revenir à lui. Dieu il t'appelle à revenir à une vie sans compromis, à vivre une vie d'intégrité. Et il t'appelle à revenir à lui, pas avec colère, pas avec rancune, pas avec frustration. Il t'appelle à revenir à lui avec amour, avec grâce, avec bonté. Mais alors qu'on tombe, alors qu'on continue, alors qu'on revient à Dieu et qu'on marche dans l'obéissance, nous pouvons faire face à une dernière tentation. Et cette tentation, c'est la tentation des mauvaises attentes. Parce qu'alors que Joseph obéit, alors que Joseph obéit, marche dans l'intégrité, marche dans l'obéissance, au lieu que sa situation s'améliore, elle se détériore. Et la femme de Potiphar, face à ce nouveau refus de sa part, invente un mensonge et raconte à tout le monde que Joseph a essayé de la violer et Joseph fut mis en prison. Et le texte nous dit la chose suivante en Genèse 39. Quand le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton serviteur », sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison. Il obéit, il marche dans l'intégrité et sa situation fait juste empirer. Et là, la tentation est forte pour Joseph. Là, la tentation est super forte de Joseph pour dire « À quoi bon ?» À quoi bon marcher dans l'obéissance ? J'obéis à Dieu et ma situation est encore pire que si je n'avais pas obéi. Ça me fait penser à une situation que j'ai vécue il y a quelques années, alors que j'étais au cégep étudiant. Puis, vous connaissez combien savent qu'au cégep, tu fais toutes sortes de jobs. Puis j'étais embauché dans une compagnie qui vendait des gazons. Et moi, j'étais représentant de vente. Puis ce que je faisais, c'était que je faisais de la sollicitation en porte-à-porte et je vendais justement les services de la compagnie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aimais ce travail-là parce qu'il était payant. Okay, c'était un de mes premiers jobs et je n'avais jamais touché autant d'argent de ma vie parce qu'à chaque fois que je faisais une vente, il y avait des commissions, tout ça. Puis j'étais vraiment bien, on était avec une équipe de jeunes, on était ensemble, tout ça, de bonne dynamique, tout ça. Puis à un moment donné, on était en train de faire notre travail, on sollicitait les gens en porte-à-porte, tout ça. Puis là, on voit la police qui nous croise et qui viennent vers nous et qui nous disent tout simplement « Vous n'avez juste pas le droit de faire ce que vous faites en ce moment. Vous n'avez juste pas le droit de faire ce que vous faites. Vous n'avez pas le permis pour solliciter les gens chez eux dans cette ville. Et en plus de ça, votre compagnie, ce n'est pas la première fois qu'on les avertit. » Donc là, nous, okay, on dit « Ok, on va arrêter, on va aller au bureau. » Puis là, on commence à confronter notre boss de dire « C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas ?» Puis là, il nous sort une réponse du genre « Ouais, tu sais, oui, officiellement, on n'a pas le droit, mais regarde, ils nous menacent tout le temps, là, mais ils ne font jamais rien. Regarde, pour aujourd'hui, vous êtes correct, vous pouvez rentrer chez vous. Demain, on fait exactement la même chose. » Et là, j'étais face à un dilemme. Dilemme de, OK, Thomas, t'es en appartement, t'as jamais touché autant d'argent de ta vie, t'as des factures à payer, tout ça. Man, c'est un bon travail. Mais de l'autre côté, c'est clairement malhonnête. Et si tu veux obéir à Dieu, si tu veux lui plaire, il va falloir que tu démissionnes. Et là, j'étais face à un dilemme. Et par la grâce de Dieu, j'ai choisi l'obéissance. J'ai choisi de démissionner, j'ai démissionné ce jour-là. Et je me souviens que du moment où j'ai démissionné, j'ai commencé à avoir une petite pensée dans la tête, de me dire, Dieu, il a vu là. Dieu, il a vu mon obéissance. Dieu, il va récompenser là. Puis là, je commençais déjà à me faire des scénarios dans ma tête. Je me voyais déjà donner mon témoignage à l'église alors que j'ai obéi à Dieu. Le lendemain, j'ai une offre d'emploi avec le double du salaire. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La réalité, c'est que j'ai démissionné et j'ai mis plusieurs semaines et même mois avant de trouver un travail. Et le travail que je trouvais après, il était beaucoup moins le fun et beaucoup moins payant. Et je me souviens qu'à l'époque, même si j'étais très jeune dans ma foi, même encore immature dans plein d'aspects de ma foi, je me souviens que dès le début, je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir obéi à Dieu. Même si j'avais eu un peu des galères à retrouver un travail, puis le nouveau travail dans lequel j'étais, je n'aimais pas trop ça. Je me souviens que même si j'étais encore immature dans plein de domaines, j'ai réalisé que je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir pris cette décision-là. Parce qu'en prenant cette décision-là, j'ai découvert un secret. J'ai découvert qu'il n'y a rien qui remplace la paix que Dieu te donne lorsque tu marches dans l'obéissance. Ni le succès, ni l'argent, il n'y a rien qui remplace. Il n'y a rien qui remplace ça. Absolument rien. Ni la popularité, ni le succès, ni l'argent, ni le confort, ni même l'absence d'épreuves. Il n'y a rien qui remplace la paix que Dieu te donne lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu marches dans une conscience clean devant le Dieu qui a tout donné pour toi. Il n'y a rien qui remplace ça. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Paul nous dit en Philippiens, « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. » Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Le résultat de notre obéissance n'est pas l'absence d'épreuves, mais la paix de Dieu avec nous. Dieu ne nous a pas promis une vie sans épreuves, il nous a promis sa présence dans nos épreuves avec nous. À un moment donné, l'apôtre Pierre enverra même une lettre à une église persécutée qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la fidélité. Et il leur dira ceci, il leur dira, ne soyez pas surpris que vous viviez des épreuves comme s'il s'agissait d'une chose anormale. La parole de Dieu a toujours été claire sur le fait que, bien qu'on est enfant de Dieu, on ne sera pas forcément épargné par les souffrances et par les épreuves. Mais si on est honnête, 5 secondes, puis moi le premier, lorsqu'on fait face à de l'épreuve, notre première réaction, c'est de dire, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu permets que je vive ça ? Pourquoi est-ce que tu permets que je perde mon emploi, que je vive autant de souffrances ? Tu ne vois pas mon obéissance ? Tu ne vois pas les sacrifices que je fais pour toi ? Est-ce que mon obéissance, elle compte pour rien ? la tentation d'être en colère contre Dieu dans nos épreuves. Un de mes autres travails, j'ai fait plein de jobs, je vous ai dit en étant étudiant. Un de mes autres travails, j'ai travaillé à un moment donné pour une compagnie qui s'appelle Air Medic, qui assurait des personnes qui partaient dans des régions éloignées du Québec pour aller dans des chalets, pour aller faire du skidoo, de la pêche, toutes sortes de choses, et qui se retrouvaient dans des endroits où ils étaient à plusieurs heures de l'hôpital les plus proches. Et s'il leur arrivait un accident ou une urgence, ils étaient vraiment mal barrés. Donc ce qu'on leur offrait, nous, c'était alors que vous allez être à votre chalet, tout ça, et que vous allez être loin de la civilisation, loin des hôpitaux, à ce moment-là, ce que vous avez juste à faire, vous nous appelez et nous, on vient en hélicoptère vous apporter à l'hôpital le plus adapté à vos besoins. On promettait jamais à nos clients qu'en prenant l'assurance avec nous, ils n'allaient jamais avoir d'urgence. En fait, la raison pour laquelle ils prenaient cette assurance-là, c'est parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient avoir besoin de nous. Ce qui fait que lorsque l'urgence arrivait, lorsqu'un accident leur arrivait, ils ne nous appelaient jamais en colère pour nous dire « Comment ça se fait ? Comment ça se fait que je paye année après année mon assurance à Air Medic et là, voici ce qui m'arrive. Voici ce qui m'arrive. Voici... » Non. Ils nous appelaient en urgence. Ils nous disaient « Guys, c'est le moment. C'est le moment, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez me chercher. J'ai besoin que vous veniez me sortir de là. Et j'aimerais te dire ce matin, dans ton épreuve, ne lève pas le poing à celui qui te tend la main. Saisis la main qu'il veut te donner. Dieu, il n'y a personne de mieux placé que Jésus pour te comprendre. Parce que tout ce que tu traverses, il l'a traversé. Dieu sait ce que c'est de se sentir seul. Il sait ce que c'est de se sentir trahi, abandonné. Il sait ce que c'est de ne pas être jugé à sa juste valeur. Il sait ce que c'est de souffrir le matière, d'être malade. Il connaît la souffrance physique. Il connaît tout de nous. Il n'y a personne qui te comprend le plus que Dieu. Il n'y a personne qui se soucie plus de ta souffrance et qui a plus compassion de ce que tu traverses en ce moment que Jésus. L'auteur Dorothy Sayers dira d'ailleurs la chose suivante. Quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de créer l'homme tel qu'il est, limité, souffrant et sujet à la mort, il a eu l'honnêteté et le courage de prendre ses propres remèdes. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'exigeait de lui-même. Il est lui-même passé par toute l'expérience humaine, depuis les banals conflits familiaux et le stress du dur labeur et du manque d'argent, jusqu'aux pires douleurs et humiliations, la défaite, le désespoir et la mort. Quand il était un homme, il a joué le rôle d'un homme. Il est né pauvre, il est mort en disgrâce, pensant que ça en valait la peine. Face à nos souffrances, Dieu ne nous a pas donné juste des simples paroles ou des théories sur la souffrance. Il s'est donné lui-même. Dieu ne s'est pas bouché les oreilles face à nos cris de douleur, de désespoir, de souffrance. Il a fait mieux que ça. Il est venu souffrir avec nous afin qu'un jour nous ne souffrions plus. J'aimerais te dire que dans ton épreuve, Jésus est avec toi ce matin. Jésus a compassion de chacune de tes souffrances. Et si dans nos épreuves, Dieu est avec nous, alors là, tout est possible. Parce qu'il est capable de changer le mal en bien. Le résultat de ton obéissance, ce n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la présence de Dieu avec nous. Et alors que Joseph est mis en prison, quelle est la première information qu'on nous donne ? Joseph est mis en prison, la première information que le texte nous dit, c'est que l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Et Joseph est mis dans une prison, mais pas n'importe quelle prison. Il est mis dans la prison du roi. Dans la prison du roi où il a pu être en contact avec le pharaon quelques années plus tard, interpréter son rêve et c'est ça qui lui permettra de devenir gouverneur et d'accomplir le rêve de Dieu pour sa vie. Dieu est capable de changer le mal en bien. Il l'a fait pour Joseph en prison, il l'a fait pour Jésus à la croix et veut le faire pour toi ce matin. Et parce qu'à la croix, il a changé l'événement le plus tragique de l'histoire de l'humanité, qu'il a transformé en l'événement le plus glorieux, on a l'assurance aujourd'hui qu'il n'y a aucune épreuve, aucune situation, aucun divorce, aucun mariage, aucune carrière, aucune maladie, aucune relation qui est hors de portée de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Aucune. Peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu est capable de changer le mal en bien. Des pires tragédies, Dieu est capable de le changer en bien pour sa gloire. Mais pour ça, il faut que tu lui fasses confiance. Continue à lui obéir, continue à marcher dans ses voies, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que tu ne vois rien en ce moment, mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Dieu n'est jamais à l'arrêt, il ne cesse jamais d'agir pour ses enfants. Espère en Dieu ce matin. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à la prière ce matin ? Seigneur, on vient devant toi ce matin, avec humilité, Seigneur Dieu, te remercier de ce que, peu importe ce qu'on vit, Seigneur Dieu, tu es toujours avec nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu ce matin et qui vivent des épreuves, qui sont tentées d'être en colère contre toi. Seigneur Dieu, viens changer leur anxiété en paix, Seigneur Jésus. Viens leur montrer, viens leur communiquer à quel point tu les aimes, à quel point tu es là et tu marches avec eux. Seigneur Dieu, je te prie pour tous ceux qui peut-être se sont éloignés de toi et marchent avec une honte, marchent avec une culpabilité. Seigneur Dieu, viens leur dire, viens rappeler à leur âme que là où le péché abonde, ta grâce surabonde, Seigneur Dieu. Qu'ils peuvent te donner leur honte, qu'ils peuvent te donner leur culpabilité, qu'ils n'ont plus à porter le poids de leur faute, ils n'ont plus à marcher à la tête baissée parce que tu as payé le prix à la croix pour eux. Seigneur Jésus, viens te révéler à nous. Viens te révéler à nous. Et Seigneur, je veux déclarer qu'on va marcher dans la victoire. Comme j'ai dit, nos tentations peuvent nous façonner pour le pire, mais je veux déclarer par la foi qu'elles vont nous façonner pour le meilleur, dans le nom de Jésus-Christ. Viens faire ton œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia, je vais vous inviter à vous lever. Puis on va prendre un chant. On va prendre un chant qu'on a chanté tout à l'heure qui dit que je m'abandonne. Et prenez vraiment ce temps pour vous approcher de Dieu. Il y en a plusieurs qui ont un rendez-vous avec Dieu ce matin. Saisissez-le. Il y en a, Dieu vous appelle à revenir et qu'on puisse se consacrer, qu'on dise Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je t'abandonne les compromis que j'étais en train de laisser dans ma vie. Je t'abandonne ma honte. Je t'abandonne ma culpabilité. Je t'abandonne mes peurs. Je t'abandonne ma colère. Je t'abandonne mes anxiétés. Je t'abandonne tout. Abandonne tout à Dieu ce matin.